5h sur Europe 1, bon réveil.
On n'a pas revu mon frère, on n'a pas choisi le cercueil, il n'a pas eu de cérémonie, tout lui a été volé.
Le deuil parfois impossible des 100 000 familles qui ont perdu un proche depuis le début de l'épidémie en France, chiffre symbolique qui est en train d'être dépassé. Pour ce qui est de l'avenir, nous verrons aussi comment les restaurants envisagent leur réouverture dans quelques semaines. Olivier Duhamel, entendu pendant 6 heures par les policiers de la brigade de protection des mineurs, l'ancien politologue a reconnu les faits d'agression sexuelle dont l'accuse son beau-fils. Et puis nous irons au musée, en ligne bien sûr, le Louvre, mais aussi le centre Pompidou, cartonne avec leur visite numérique.
À suivre les sports, notre pressing du matin et puis les doigts dans l'assiette. Avec nos agriculteurs et nos artisans, nous serons chez notre boulanger niçois tout à l'heure.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Un chiffre domine ce matin. Bientôt 100 000 morts du Covid en France. Des milliers de drames, mais aussi des rites funéraires chamboulés. Des morts parfois solitaires qui ont totalement bouleversé le deuil des familles. Comme celle de Michel, qui avait 62 ans et a été emporté par la maladie il y a tout juste un an, en avril 2020. À l'époque, ni masque, ni protection. Ses proches ne peuvent même pas approcher son corps. Aujourd'hui, sa sœur Louise regrette encore cette impossibilité d'avoir vu son frère une dernière fois.
On n'a pas revu mon frère, on n'a pas choisi le cercueil, il n'a pas eu de cérémonie, tout lui a été volé, les obsèques qu'il aurait dû avoir, nous, le recueillement qu'on aurait dû avoir. Je ne l'ai pas revu, je vois son nom sur une pierre tombale et j'arrive pas à regarder cette pierre tombale. Impossibilité de faire le deuil parce que finalement, on n'a pas pu lui dire au revoir. Il y a des gens qui décèdent pareil à l'hôpital, qui ne peuvent pas revoir la famille. Enfin, c'est terrible. On ne peut pas laisser les gens sans au revoir. C'est pas possible.
Le témoignage de Louise, la sœur d'une victime du Covid au micro Europe 1 de Victor Delande.
Et on reparlera cette difficulté du deuil qui a marqué cette année écoulée avec la psychothérapeute Marie de Henzel tout à l'heure à 5h40. Cap sur l'avenir aussi ce matin. Emmanuel Macron pourrait s'adresser aux Français d'ici la fin du mois, selon une source gouvernementale.
Oui, en attendant, il réunit 10 ministres ce soir à 18h en vue de la réouverture progressive des terrasses, de cafés et restaurants, ainsi que certains lieux culturels envisagés mi-mai. Alors, quelles sont les attentes ce matin des restaurateurs ? Jean-Jacques Herry est allé leur poser la question.
Le plan envisagé par le gouvernement semble très progressif. Il y aurait 3 phases de réouverture. D'abord celle des terrasses, ensuite celle des salles de restaurant, mais avec une jauge, avant enfin la réouverture totale et sans restriction. Le calendrier n'est pas encore établi. Chacune des étapes pourrait durer plusieurs semaines. C'est ce qui inquiète certains restaurateurs comme Laurent Scandouzi, gérant du bar à tapas Le Loti à Paris.
Il faudrait que ces étapes, effectivement, elles soient raccourcies. 2 semaines par 2 semaines me semble le plus cohérent. Le problème dans tout ça, c'est OK pour redémarrer, ça peut être une bonne idée, mais si ça dure trop longtemps, financièrement, ça sera toujours pareil. Est-ce qu'on va continuer à toucher des aides ou alors est-ce qu'ils vont nous laisser comme ça ouvrir, mais sachant que ce sera des chiffres d'affaires anecdotiques. Si on n'a pas les aides en plus, on ne pourra pas continuer, quoi.
Thomas, le directeur adjoint du restaurant de burger Paris-New York, reste très prudent, échaudé par une année de pandémie.
Le plus tôt est le mieux, mais il faut que ce soit pérenne derrière. Et si c'est pour revenir en arrière dans les semaines qui suivent, parce que sanitairement, ça ne répond pas, c'est pas intéressant, quoi. Donc à voir, tant qu'on n'y est pas, on attend.
On attend et on continue la vente à emporter, devenue la règle depuis le mois d'octobre. Le burger se déguste à domicile et sur le pas de la porte, un petit groupe de livreurs patients.
Un reportage de Jean-Jacques Herry, pardon, et faisons le parallèle avec l'autre côté de la Manche, où les terrasses des pubs ont rouvert lundi, dans la joie et la bonne humeur d'ailleurs. On entend ces scènes de joie, effectivement, peut-être trop. Cela préoccupe le gouvernement et les scientifiques du pays. Anthony Arden, chef adjoint du comité britannique sur la vaccination et l'immunisation, appelle les Britanniques à la prudence.
Je suis inquiet des scènes qu'on a vues à Londres, de gens qui profitent de l'extérieur, des pubs, dans des endroits bondés, parce que bien sûr, ça va augmenter le taux d'infection. À chaque fois qu'on déconfine, ça augmente le taux d'infection. Et le danger dans ce cas-là est que le virus se transmet beaucoup plus. Et avec les nouveaux variants, comme le variant sud-africain, on n'a vraiment pas envie qu'ils deviennent majoritaires dans ce pays, parce que les vaccins marchent moins bien sur eux. On veut tous retrouver notre vie d'avant, on veut tous s'amuser à nouveau. Mais il faut qu'on soit prudent et qu'on y aille doucement, sinon ce sera retour à la case départ.
On veut tous s'amuser, mais prudence, nous dit Anthony Arden au micro Europe 1 de Johanna Chabas.
En France, pour l'instant, c'est les vacances scolaires, mais l'éducation nationale prépare la rentrée et accélère sur le dépistage. C'est une information Europe 1. Le ministère de l'Éducation a commandé 52 millions d'autotests.
Oui, le gouvernement veut les déployer dès le 26 avril pour les enseignants du primaire, puis dès le 3 mai pour les lycéens de plus de 15 ans et leur professeur, Virginie Riva.
Oui, le ministère a bien commandé 52,5 millions d'autotests pour les lycéens et les personnels de l'éducation nationale pour un coût total de 245 millions d'euros. L'idée, c'est maintenant de savoir comment les déployer. Première hypothèse sur la table, réaliser les autotests en classe, pourquoi pas durant les cours de SVT, avec une première partie théorique d'explication des consignes, puis une deuxième, pratique. Chaque élève à sa table avec son long coton-tige dans le nez, mais les enseignants sont perplexes. Que faire s'il y a des élèves positifs? Comment meubler pendant les 20 minutes d'attente du résultat? Il demande à ce que les tests soient plutôt faits à la maison et qu'ils soient sous contrôle des parents. Même réticence du côté du syndicat des proviseurs, le SNPDEN, consulté hier par le cabinet de Jean-Michel Blanquer. OK pour servir de base logistique, dit le syndicat, s'il faut entreposer des autotests, mais hors de question de demander aux enseignants d'encadrer ça. Un chef d'établissement nous glisse, un bon tuto sur YouTube sera plus efficace qu'un agrégé d'espagnol. La question doit être tranchée au niveau interministériel.
Virginie Rivas, spécialiste éducation d'Europe 1.
5h06 sur Europe 1. On reparle d'Olivier Duhamel ce matin, l'ancien politologue, ancien président de la fondation qui chapeaute Sciences Po Paris. Il a reconnu les faits d'inceste sur son beau-fils.
Oui, il est sous le coup d'une enquête pour viol et agression sexuelle par personne ayant autorité. Et ce, après l'apparition du livre début janvier, La Familia Grande. Gladys Laffitte, Olivier Duhamel a été entendu avant-hier.
Oui, il était convoqué en audition libre par les policiers de la brigade de protection des mineurs de la police judiciaire parisienne. Devant eux, Olivier Duhamel a reconnu des agressions sexuelles sur son beau-fils, alors âgé de 13 ans. Des agressions sexuelles, mais pas des viols, a-t-il expliqué. Une reconnaissance des faits difficile selon nos informations. Le politologue a aussi exprimé des regrets face aux enquêteurs. Les faits sont a priori prescrits, puisqu'ils se sont passés dans les années 80. C'est pour ça qu'il n'a pas été placé en garde à vue et qu'à ce stade, il n'est pas poursuivi. Le beau-fils d'Olivier Duhamel avait tout de même déposé plainte fin janvier après la publication du livre de sa sœur jumelle, Camille Kouchner, dans lequel elle dénonce les faits dont il a été victime. Il a aujourd'hui 45 ans. L'enquête continue tout de même puisqu'elle s'attache aussi à rechercher d'éventuelles autres victimes.
Gladys Laffitte du service police-justice d'Europe 1. Les algues vertes qui prolifèrent sur les plages bretonnes depuis 50 ans, plusieurs dizaines de milliers de tonnes échouées. La cause de leur profusion, l'agriculture intensive qui sature les eaux en nitrate. Deux organisations assignent l'État en justice pour préjudice écologique. Yves-Marie Lelay est président de l'association Sauvegarde du Trégor qui porte le dossier devant le tribunal de Rennes.
La décomposition des algues produit de l'hydrogène sulfuré qui est un gaz toxique violent. Il a tué en moins de 30 secondes des personnes. Le dernier en date, c'est Jean-René Auffray en 2016. Qui s'est confronté à la vase et il est mort, foudroyé. Les responsables, c'est l'État qui a donné des autorisations d'agrandissement d'élevage et il n'y a pas une personnalité politique qui ait le courage de dire au monde agricole industriel, ça suffit, il faut procéder à de nouveaux modes agricoles. Si l'État ne veut rien entendre, eh bien, on le traîne en justice, comme n'importe quel citoyen. On ira jusqu'aux institutions européennes s'il le faut. On veut qu'il soit condamné et qu'il soit obligé d'agir.
Yves-Marie Lelay, joint par Zoé Pallier.
Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'art, ce qui peut sembler paradoxal quand tous les musées et lieux de culture sont fermés depuis maintenant des mois.
Oui, mais les galeries, les centres d'art, les musées redoublent d'énergie, d'innovation aussi pour fidéliser leur public et en attirer d'autres. Les sites internet des musées et les expos en ligne cartonnent depuis la crise. Diane Chenouda.
20 millions de connexions pour le Louvre en 2020 et son nouveau site démarre fort. Avec 550 000 visites rien que pour son week-end de lancement fin mars. Il faut dire que n'importe qui peut gratuitement découvrir tous les tableaux du musée, sans compter les nombreux podcasts aussi pour les enfants. Le Centre Pompidou, lui, fait sensation avec son expérience Kandinsky. Plus de 500 000 connexions en un mois, le peintre associe un son à chaque couleur, la trompette pour le jaune, le violon pour le rouge. Paul Mouret, chef du service numérique du Centre Pompidou.
L'expérience Kandinsky, oui, cartonne, marche très très fort. Donc ce qui est intéressant de constater, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on arrive à attirer un public très nombreux qui vient uniquement pour le contenu numérique. On a pu aussi toucher des gens différents, plus jeunes, à l'international, des gens qui peut-être nous auraient pas identifiés, qui auraient pensé potentiellement que le Centre Pompidou était pas pour eux.
Autre expo en ligne qui marche, cette vidéo sur les baigneuses de Picasso au Musée des Beaux-Arts de Lyon.
Ce tableau de petit format est lié à la découverte de la plage de Biarritz.
Depuis la crise, le site du musée a attiré 70% de visiteurs de plus.
Diane Chénouda du service culture d'Europe.
C'était le journal de François Geffrier, il est 5h10. Bonjour Lina Ekmonier.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Le journal des sports avec à la une le PSG qui, ça y est, connaît son futur adversaire en Ligue des Champions.
Prochaine étape, les demi-finales et ce sera face à Manchester City. Les joueurs de Pep Guardiola ont dominé Dortmund 2-1, exactement comme à l'aller. Première qualification dans le dernier carré de la Ligue des Champions pour City après 3 échecs d'affilée. Le Real Madrid de son côté rejoint Chelsea après le nul 0-0 face à Liverpool. Rendez-vous déjà dans 2 semaines pour ces demi-finales.
C'est jouable Manchester City ?
Ah, ça passe.
Ça passe ? Bon, espérons. On verra ça.
Je m'avance.
Les demi-finales qui font du bien en tout cas aux finances des clubs.
Oui, prenons justement le cas du Paris Saint-Germain. Cette qualification va permettre au club d'empocher, d'après l'Observatoire du Sport Business, à peu près 110 millions d'euros. Ça compte évidemment en pleine crise sanitaire. Vincent Chaudel est économiste du sport et il est fondateur de l'Observatoire de ce Sport Business.
C'est important parce que c'est une année Covid où les clubs sont privés de recettes billetterie. Il y a un impact aussi sur leur sponsoring, les loges et autres recettes. On peut estimer aujourd'hui, ou du moins il y avait des prévisions qui parlaient de 200 millions d'euros de déficit pour le PSG. Une campagne à 110 millions d'euros en Champions League est évidemment très importante pour amortir et réduire ce déficit.
Vincent Chaudel, économiste du sport, interrogé par Julien Froment.
Le tennis est le retour réussi pour Lucas Pouille à Monte Carlo.
Ça fait plus d'un an et demi qu'on ne l'a pas vu sur un court en raison d'une blessure au coude. Et bien hier, il a dominé l'Australien Poprin, issu des qualifications. Un succès qui fait du bien car il commençait à trouver le temps très long.
J'ai perdu un an après, ouais, pas un an complet parce qu'il y a eu avec la pandémie et cette crise sanitaire, il y a eu une longue période sans jouer pour tout le monde. Après, oui, ça m'a paru extrêmement long et surtout j'ai cru ne jamais voir le bout parce que la blessure a commencé septembre 2019 et puis à chaque fois je rechutais. Et puis il y a eu un moment où il y a eu vraiment le gros doute de savoir si j'allais pouvoir un jour rejouer normalement, un jour pouvoir resservir normalement. Donc c'est sûr que c'est une victoire qui fait du bien, tant sur le plan de l'état d'esprit que du jeu. Et puis pour la confiance, c'est forcément que du positif.
Et puis hier, qualification sans surprise et en très peu de temps de Rafael Nadal et de Novak Djokovic.
On le disait hier, les Jeux Olympiques de Tokyo approchent dans maintenant 99 jours, puisque c'était 100 hier. Et les athlètes doivent penser à beaucoup de choses en ce moment.
Préparation évidemment, mais aussi vaccination. Le Japon qui accueille les JO ne l'impose pas, mais le Comité international olympique l'encourage très fortement. Alors que faire ? Florent Manaudou n'a pas encore tranché.
Je suis encore hyper mitigé en fait. Je sais qu'on allait avoir sûrement l'opportunité de pouvoir se faire vacciner. Alors je ne suis pas un grand fan de vaccins. Maintenant, moi j'ai ma copine qui est venue il y a 3 semaines. Elle a bien chié quand même pendant 2 semaines. Donc là, je viens la retrouver aujourd'hui et elle n'est pas hyper en forme. Donc avoir le Covid un mois ou 2 semaines avant les Jeux, je pense que c'est une mauvaise solution aussi. Donc il faut peser le pour et le contre. Pour l'instant, je n'ai pas fait mon choix, mais je m'orienterai peut-être plus vers un vaccin juste pour pouvoir faire les Jeux et pouvoir participer à ça. Ouais.
Le nageur Florent Manaudou, interrogé par Corinne Boulou.
Merci Lénaïque, à tout à l'heure. Et voici le pari gagnant du jour. Bonjour Thierry Léger.
Bonjour Sébastien. Il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome d'Auteuil. Et mon pari gagnant sera le 401 Saint-Urgeon. Troisième l'an dernier du prix Renaud du Vivier, qui réunissait l'élite des sauteurs âgés de 4 ans sur les haies, il n'a pas raté ses débuts en steeplechase sur les gros obstacles en s'imposant avec de la marge le 13 mars à Auteuil. Ce jour-là, il effectuait une rentrée après plus de 3 mois d'absence et on le dit encore mieux le matin à l'entraînement. Dès lors, il devrait pouvoir rééditer et conserver ainsi son invincibilité sur le steeplechase. Notez bien, pour cet après-midi à Auteuil, réunion 1, dans la 4e course, le numéro 1, Saint-Urgeon.
C'est noté Thierry Léger, à tout à l'heure pour les pronostics du Quintet.
Europe 1.
Presque 5h15 sur Europe 1. C'est l'heure de notre pressing. Comme chaque matin, nous ouvrons les journaux, nous les lisons avec vous. Amblin, qu'est-ce qui vous a interpellé dans la presse ?
8 couples depuis 1819 ont décidé d'unir leur destin. Ils forment depuis une communauté fermée avec des règles précises, strictes au cœur de Paris, se font appeler la famille.
8 couples qui forment une famille et qui se marient entre eux depuis
200 ans.
Depuis 200 ans. Leur histoire est dans Paris Match et on vous la raconte dans un instant. À tout de suite.
Europe 1, Sébastien Krebs.
Il est 5h15, 2 ans après l'incendie qui avait ravagé Notre-Dame de Paris. Emmanuel Macron sera sur le chantier aujourd'hui avec Anne Hidalgo et Roselyne Bachelot. C'est une information Europe 1 qu'on vous donne dès 5h. 52 millions d'autotests de dépistage ont été commandés par l'Éducation nationale en vue de la rentrée des vacances scolaires. Ils sont destinés aux lycéens et au personnel. Joe Biden confirme le retrait des troupes américaines d'Afghanistan d'ici au 11 septembre, ce qui sera tout juste 20 ans après les attentats contre le World Trade Center. Et puis, la petite fille de 8 ans enlevée mardi dans les Vosges est toujours activement recherchée. Un numéro vert est en place pour toute information à donner aux enquêteurs, le 0800 36 32 68.
Europe 1.
Allez, c'est parti pour le pressing du jour avec Ambline Roche et Martin Lange. On commence par regarder les unes des journaux. Et c'est Notre-Dame qui occupe les gros titres ce matin de beaucoup de vos quotidiens. D'abord aujourd'hui en France, où Emmanuel Macron, qui sera donc sur le chantier tout à l'heure, confirme sa promesse de voir la cathédrale rebâtie dans 3 ans maintenant. Le Figaro, vous lirez une interview du général Georges Lain, qui mène bien sûr ce chantier. Sécurisé, Notre-Dame entre dans le temps de la reconstruction, annonce-t-il. Une œuvre de patience pour les dernières nouvelles d'Alsace. Le chantier du siècle dans Midi Libre, 2 ans d'un sacré chantier, titre Libération. Notre-Dame est aussi à la une de la Croix, une ferveur intacte. Cette cathédrale nous élève, estime Anne Hidalgo dans le journal catholique. À la une aussi, l'espoir d'une vie normale. C'est à la une de Ouest-France. Terrasses et lieux culturels, la réouverture pour la mi-mai, avec un point d'interrogation, parce que c'est à ce stade une promesse. Mais une bonne nouvelle liée aux mesures sanitaires dans la Voie du Nord. Lors du premier confinement, ce sont des milliers de morts qui ont été évité grâce à la chute drastique de la pollution de l'air. Et voici donc les 3 histoires qui nous ont, qui ont attiré notre attention ce matin. Et d'abord, l'histoire de cette famille, entre guillemets, pas comme les autres.
Oui, cette communauté, hein, cette secte au cœur de Paris, on les reconnaît grâce à leurs vêtements démodés, leur ressemblance physique, des fratries à rallonge depuis 200 ans. Ils se marient entre cousins et se font appeler donc la famille. On est dans la famille, on n'entre pas, hein, on ne recrute pas dans la famille, c'est-à-dire dans Paris Match. Leur vie est régie par des lois divines, par des règles édictées depuis 1892. Il est interdit de travailler dans le domaine juridique ou dans les métiers de la santé, car Dieu seul est maître des corps. Ils sont ouvriers ou artisans essentiellement. Le divorce est bien sûr interdit, tout comme la contraception. Tous les membres restent uniquement entre eux, le soir, les week-ends, les vacances. Ils restent entre eux, ils ont leur propre fête religieuse, pas de clair, pas d'église. Ils ne portent jamais la couleur rouge, la couleur du diable, du péché. Certains enfants vont à l'école, donc sont vaccinés, puisque c'est obligatoire. Les plus rigoristes font la classe à la maison. Ils ne votent pas, mais ils payent leurs impôts et leur loyer. 8 couples, donc, ont décidé de s'unir, unir leur destin depuis 1819. Et aujourd'hui, ces 8 familles comptent 4000 membres à peu près. Certains ont fui, comme Claire Thiboult, la célèbre comptable de l'héritière de L'Oréal, Liliane Bettencourt. Derrière les portes closes, selon d'anciens membres qui témoignent, se cacheraient aussi des actes terribles, hein, des abus sexuels. Un ancien adepte a alerté la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Mais tant que les membres restent silencieux et invisibles, on ne peut pas faire grand-chose. En tout cas, la famille tente de garder un œil sur le taux de consanguinité grâce à un site de généalogie. Et s'il dépasse les 12% de gènes communs, le mariage entre jeunes, ça s'organise quand ils ont une vingtaine d'années, est annulé. Alors ça, c'est la théorie. Dans la réalité, il serait en général 25%, ce taux de consanguinité, avec son lot de maladies héréditaires, évidemment. La famille, une secte au cœur de Paris, c'est à lire dans Paris Match.
C'est complètement fou,
c'est
cette histoire.
Un peu effrayant, quand même.
C'est ce qui est complètement dingue, c'est qu'il y a 4000 personnes aujourd'hui. Il n'y a pas de rebelles dans les jeunes qui naissent, qui vont à l'école, qui vont au collège, qui sont
4000 membres à peu près aujourd'hui. Ils estiment que certains ont fui, sont partis. Justement, il y a une page Facebook où certains témoignent et dénoncent cette communauté avec ses dérives. Les dérives sectaires, comme...
C'est-à-dire dans Paris Match, Paris Match qui sort aujourd'hui et qui est notamment consacré au prince Philippe avec un numéro spécial. Autre sujet ce matin, c'est le Figaro qui pointe les contradictions d'un projet a priori écologique. En Gironde, un projet de centrale photovoltaïque fait débat. Il pourrait devenir l'un des enjeux de la campagne des élections régionales et départementales. À Socat, c'est la plus grande centrale de panneaux solaires d'Europe qui pourrait voir le jour. Projet Oriseo, 1 milliard d'euros d'investissement pour une puissance d'1 gigawatt. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent de la consommation de 600 000 foyers donc, en électricité. Tout ça grâce à l'énergie solaire. Vous allez me dire, ça a l'air bien. sauf que ça implique de raser une forêt entière de 1000 hectares de pins. C'est 0,1% de la forêt des Landes. Et ça fait débat. Mettons ces panneaux solaires sur des friches industrielles ou sur des parkings, mais pas à la place de la forêt, estime une association de défense de l'environnement. Les chasseurs, les sylviculteurs sont sur la même ligne. Engie, qui porte notamment ce projet, s'engage à replanter 2 arbres pour chaque pin qui sera abattu. La commune de Socat, elle, est plutôt favorable à ce projet, qui est signe de retombées fiscales importantes. 2 millions d'euros annuels pour la commune et pour la région. Alors c'est l'État qui va trancher, qui va devoir décider d'accorder ou pas les autorisations pour construire ce grand champ de panneaux photovoltaïques. La région aura son mot à dire. D'où le sujet de campagne et le débat qui va s'engager. Les candidats au régional vont forcément devoir se prononcer. Une concertation publique est prévue sur ce projet donc, en Gironde à partir du mois de septembre. Voilà, c'est à lire dans Le Figaro ce matin. Martin, on termine avec vous.
Oui, avec les conséquences du report des élections régionales et un embouteillage qui s'annonce en Bretagne. La région doit accueillir le Tour de France le dernier week-end de juin, notamment la deuxième étape entre Perros-Guirec et Mur de Bretagne.
Donc ça les arrange pas.
Le 27 juin. Et ça tombe exactement le jour de la nouvelle date du second tour des élections départementales et régionales. Alors, entre l'organisation du vote et la sécurisation du parcours, les petites communes bretonnes vont devoir trancher. De quoi provoquer la colère des élus locaux et d'Amaury Sport, hein, l'organisateur du tour. Car le chevauchement des dates donne lieu à des situations complètement ubuesque, comme un pimpol. Hein. Les 7 bureaux de vote de la ville sont sur le parcours de la course. Ils seront donc inaccessibles entre midi et 16h. Les habitants devront donc aller voter soit très tôt le matin, soit tard le soir. Surtout, ils vont s'agglutiner dans les isoloirs au même moment. Une aberration en pleine crise sanitaire. Et les maires sont coincés. Hein. Le lycée est sur le parcours, le gymnase c'est le centre de vaccination. Je n'ai pas d'autre endroit, peste la maire de Paimpol, Fanny Chappé.
Et c'est impossible de décaler cette étape ?
Eh bien, c'est ce qu'ont demandé les préfets de région et de département. Impossible, répond Christian Prudhomme, le patron de la Grande Boucle. Organiser la plus grande course du monde, ça ne s'improvise pas. Et puis le dimanche, c'est le jour des meilleures audiences. Imposer un jour de repos sans étape, c'est se tirer une balle dans le pied, explique-t-on chez Amaury Sport. Aucun compromis ne semble possible. Les élus craignent un taux d'abstention record dans une région connue pour sa passion du vélo. C'est la région de Bernard Hinault, de Louison Bobet. Et ils s'en prennent à l'exécutif. Le gouvernement gère les élections comme il a gère les masques, les tests, puis les vaccins. Ils font tout et n'importe quoi, assène le sénateur Alain Cadec. Entre le Tour de France et les régionales, il faudra choisir. C'est à lire sur le site du Point.
Ouais, c'est pas gagné. Et finalement, décalé d'une toute petite semaine, les élections, bah voilà, tout de suite, ça met le bazar. On ne comprend plus rien, voilà. On ne sait plus quoi faire. Bon, bah on verra, on suivra ce feuilleton qui s'engage en Bretagne. Martin Lange, Omblin Roche, merci à vous
merci.
Deux. Il est 5h23.
Sébastien Krebs vous informe sur Europe 1.
Et pour les doigts dans l'assiette, nous sommes sur la Côte d'Azur, à Nice, chez notre boulanger. Bonjour Frédéric Roy.
Bonjour à tous.
Alors, comment allez-vous ce matin ?
En pleine forme, comme tous les matins, et ça vaut mieux.
Qu'est-ce qu'il y a dans le four ?
C'est compliqué. Alors là, je viens de charger toute ma viennoiserie, croissant, pain au chocolat, bien évidemment le fameux pain au chocolat, les brioches, les pains au raisin, donc c'est en train de cuire pendant que je suis au téléphone.
Bon, ben voilà, tout est en cuisson pour l'ouverture tout à l'heure, vous les aurez tout chaud. Alors vous m'aviez promis ce matin de nous donner quelques secrets de fabrication sur la fabrication de votre pain.
Oui, disons que quand on fait du pain à la maison, c'est jamais évident parce que le pain, et c'est là qu'on se rend compte, c'est pour ça que j'aime bien quand les gens font du pain à la maison, comme ça ils se rendent compte de la difficulté que c'est à fabriquer du pain. C'est de la difficulté mais aussi de la simplicité, puisque du pain on en a toujours fait depuis que le monde est monde, on va dire. Mais tout réside dans le temps, parce que le pain c'est énormément de temps. Or, quand on est à la maison, on voudrait commencer le pain tout de suite et que 2 heures après on soit en train de le manger. Et c'est là l'erreur. Moi, ce que je conseillerais à ceux qui veulent faire du pain à la maison ou autre, c'est de préparer sa pâte gentiment la veille en utilisant que la moitié de la levure qui sont souvent prescrites dans les recettes, de la laisser reposer au frigo toute la nuit et seulement le lendemain matin de l'utiliser, de la façonner, de la mettre à lever pendant 2 ou 3 heures et ensuite de la cuire, c'est-à-dire faire du pain sur une période d'au moins 24 heures.
Ah oui, mais vous ne faites pas ça dans votre boulangerie ?
Si, si, absolument. Si, moi je travaille ce qu'on appelle des fermentations longues, c'est-à-dire que le pain que je suis en train de cuire là tout de suite, C'est du pain que j'ai préparé hier matin.
D'accord.
Et que j'ai façonné hier matin, mais qui a fermenté jusqu'à maintenant à une température entre 8 et 10 degrés, c'est-à-dire une fermentation très lente.
D'accord.
Et c'est ce qu'on appelle aussi une fermentation naturelle, puisque je travaille avec seulement 3 grammes de levure par kilo de farine. En revanche, j'y mets du levain naturel. Et donc, c'est une fermentation qui se fait naturellement et qui va donner un pain beaucoup plus digeste et beaucoup plus goûteux, on va dire, et qui se conservera d'autant mieux.
D'accord, donc en fait, vous avez un jour de décalage, vous faites votre pâte et vous la cuisez que le lendemain, et c'est votre conseil si on veut le faire à la maison. Vous dites levain naturel, qu'est-ce qu'on peut utiliser facilement à la maison? Où est-ce qu'on peut en trouver?
Alors le levain naturel, le plus simple, parce que quand j'ai fabriqué mon levain au départ naturel, il m'a fallu environ 10 jours pour le fabriquer. Donc le plus simple pour quelqu'un qui est à la maison, c'est d'en demander à son boulanger s'il veut bien lui en vendre un petit morceau. Parce qu'une fois qu'il est fabriqué, le levain, il faut l'entretenir tous les jours pour pouvoir le conserver. Et en fait, on peut garder son levain toute sa vie, puisque tous les jours, c'est une base de pâte dans laquelle il n'y a absolument aucune levure ni sel, mais qu'on va rafraîchir tous les jours, on va réincorporer de la farine dedans, de l'eau, pour pouvoir le conserver, en fait.
Très bien.
Et à la base, le levain, c'est juste un mélange soit de base de fruits comme le raisin. Moi, le mien, j'ai fait un mélange de farine et de miel que j'ai laissé plusieurs jours fermenter. J'ai eu une petite apparition de bulles à l'intérieur. À ce moment-là, je l'ai pris. J'ai remis de la farine dedans. Je l'ai remélangé avec de l'eau. Je l'ai laissé encore fermenter 3 jours et ainsi de suite pendant une période de 10 jours. Et c'est cette base-là que j'utilise aujourd'hui comme levain.
Voilà, on comprend grâce à vous que le pain, c'est du temps long et que ça ne se fait pas en 2 heures à la maison.
Le pain, c'est la vie.
Merci Frédéric Roy.
Merci
à bientôt
à
dans votre boulangerie niçoise. 5h27
Merci.
Sur Europe 1.
Europe 1, Sébastien Krebs. Je ne suis qu'une imbécile, allongée sur le dos. Je me refais le film. Le début était beau, puis je t'imagine jouer sur ton piano. Un écho, j'ai tout gâché. Je sais, j'ai tout gâché. Je ne peux pas oublier ton cul et le grain de beauté perdu sur ton pouce et la peau de ton dos. Le reste, je te le laisse, mais je retiens en laisse le souvenir ému de ton corps nu. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse. Je te sens au loin, chasser mon souvenir qui palpite encore, qui va bientôt mourir. Reste mon pauvre cœur qui a tout inventé. Étais-tu ici? M'as-tu au moins aimé? J'ai tout gâché. Je sais, j'ai tout gâché. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse.
C'est le nouveau titre de Clara Luciani qui est de retour. Le reste, premier extrait de son album qui sortira au mois de juin, le 11 juin précisément. L'album s'appellera Cœur. Il est 5h29 et on retrouve Laurent Cabrol. Le beau temps va continuer. Quelle sera la couleur du ciel, Laurent?
Bah, du soleil, il y en a et il y en aura toute la journée. Hein. Pratiquement partout, oh, quand même, sur la Normandie, la Haute-Normandie, la Picardie et le Nord, on peut imaginer ou on peut prévoir quelques averses dans des nuages qui sont parfois menaçants, mais c'est tout. Partout ailleurs, le soleil sera là avec des vents de nord-est, ces satanés vents qui ne nous quittent pas, 40 à 50 km/h, ils accentuent l'impression de froid, car il fait ce matin entre moins 5 et plus 2 ou plus 3 degrés. Mais ces températures sont prises sous abri, ça veut dire qu'en plein vent, faut enlever quand même 2-3 degrés. Donc moins 5 à plus 3 degrés, ça n'est pas énorme. Il en fait 1 degré seulement à Paris sous abri. Dans la journée, entre 10 et 15 ou 10 et 16. Là, nous sommes dans des températures qui sont bien sûr au-dessous des normales saisonnières, mais qui sont plus respectables, plus raisonnables. Bref, une journée ensoleillée, une journée presque une journée d'hiver, mais une journée d'un hiver qui pourrait nous plaire s'il n'y avait pas autant de dégâts dans les cultures.
Très bien, tout à l'heure Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Bon réveil avec Europe 1, tout de suite un nouveau journal. Bonjour Marion Calais.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Il est 5h30.
La cathédrale est prête à restaurer la flèche, et c'est-à-dire que l'échafaudage va être monté en partant du cœur, en partant du sol, comme Viollet-le-Duc l'avait fait en son temps.
2 ans jour pour jour après l'incendie, les travaux vont donc pouvoir commencer sur la cathédrale Notre-Dame de Paris. Où en est le chantier? Réponse dès le début de ce journal. Réunion ce soir à l'Élysée pour évoquer la réouverture des bars, restaurants et autres lieux culturels avec une question. Le calendrier fixé à la mi-mai pourra-t-il être tenu? Dans ce journal aussi, la piste d'une anonymisation de certains vaccins pour faire face à la défiance et Manchester City, prochain adversaire du PSG en demi-finale de la Ligue des Champions.
Après le journal, nous sommes submergés au quotidien de chiffres sur l'épidémie, mais il faut probablement retenir celui-là. 100 000 morts du Covid en France, ce cap est sur le point d'être franchi. Autant d'épreuves pour les familles, un trauma qui est aussi collectif. Alors comment rebondir? Nous en parlons dans 10 minutes avec mon invité, la psychothérapeute Marie de Henzel.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Du brasier au chantier, il y a 2 ans, la cathédrale Notre-Dame de Paris s'embrasait, laissant la bâtisse vieille de 850 ans ouverte aux intempéries. Plus de flèches, plus de toitures et tout un édifice fragilisé.
Alors désormais, les craintes d'effondrement sont écartées. Un reportage au cœur du chantier avec Pierre Herbulot pour Europe 1.
Des bâches qui pansent les parois, des filets qui enlacent les tours et des échafaudages qui s'infiltrent dans la nef. Notre-Dame de Paris martyrisée, mais Notre-Dame de Paris libérée de son risque d'effondrement.
Ça avance très bien.
Michel Picot, président de l'association Friends of Notre-Dame, assiste régulièrement à ces travaux de sécurisation débutés au lendemain de l'incendie.
Des opérations de soutènement des grands arcs-boutants de la nef de la cathédrale, d'enlèvement de statues qui menaçaient de tomber et qui devaient donc être protégées. L'enlèvement en fait de l'échafaudage calciné de la flèche de la cathédrale.
Après la consolidation de la voûte cet été, la phase de reconstruction va enfin pouvoir commencer. Christophe Rousselot de la Fondation Notre-Dame.
La cathédrale est prête à restaurer la flèche, et c'est-à-dire que l'échafaudage va être monté en partant du cœur, en partant du sol, comme Viollet-le-Duc l'avait fait en son temps. Et cet échafaudage va culminer à 96 mètres pour que la flèche puisse être reconstruite avant que la toiture et la charpente ne le soient.
Les appels d'offres sont en train d'être lancés. Pour l'instant, les délais sont respectés et tous les observateurs jugent raisonnable la tenue d'une première messe dans 3 ans tout pile.
Ouais, et l'engagement de 2024 sera tenu. Hein. C'est aussi ce que dit aujourd'hui Emmanuel Macron dans Le Parisien aujourd'hui en France, le chef de l'État qui visitera ce matin le chantier aux côtés de la maire de Paris, Anne Hidalgo.
Et aux côtés du recteur de la cathédrale, Monseigneur Chauvet, qui avant d'accueillir Emmanuel Macron sera avec nous sur Europe 1. Il sera mon invité tout à l'heure à 6h40. Emmanuel Macron qui doit aussi ce soir se pencher sur la suite, l'après-confinement, réunion à 18h à l'Élysée.
Il s'agira d'examiner les conditions de la réouverture des restaurants, des bars, des musées ou des cinémas. Jean-Rémy Baudeau, objectif, tenter de fixer un cap pour un premier pas vers une vie plus normale.
Oui, ce soir, face au président, une dizaine de ministres. Chacun devra avoir préparé, selon son portefeuille, les protocoles nécessaires pour relancer les lieux publics. Dans la tête de tout le monde, la promesse d'Emmanuel Macron de rouvrir à la mi-mai les terrasses et certains lieux de culture. Mais au-delà des apéros et des musées, les détails de ce nouveau déconfinement sont très nombreux. Écoles, transports, commerce. La ministre du Travail, Elisabeth Borne, insistera par exemple sur les conditions nécessaires pour lever le télétravail forcé. « Je fais confiance à l'administration pour nous pondre des protocoles efficaces », persifle un membre de cabinet. La vaccination fera-t-elle la différence? Les images des pubs à Londres ont marqué les esprits. « Si on rouvre, il faut que ce soit pour de bon », s'inquiète-t-on à Bercy. L'enjeu ce soir pour Emmanuel Macron est donc de montrer que l'exécutif est au travail, qu'il donne des perspectives encourageantes de sortie de crise, d'où cette mise en scène. Mais la réunion de ce soir sonne surtout comme un remake. Il y a très exactement 1 an, Emmanuel Macron promettait à la télévision le retour des jours heureux aux Français. 12 mois plus tard, Monsieur Déconfinement est à Matignon et on parle encore et toujours du virus.
Et chez nos voisins aussi, la perspective de revivre un peu. La Belgique fixe au 8 mai la réouverture des terrasses. Ce sera dès lundi prochain en Suisse, malgré une situation sanitaire toujours tendue.
L'Europe, dont la campagne de vaccination est une nouvelle fois ralentie par les suspicions d'effets secondaires graves liés à des injections.
Oui, après l'AstraZeneca que le Danemark a annoncé ne plus vouloir utiliser, c'est le Johnson & Johnson qui fait l'objet d'investigations pour des cas de thrombose signalés aux États-Unis.
Le déploiement de ce vaccin devait débuter la semaine prochaine en France. Alors, en attendant un avis de l'Agence européenne du médicament, Paris a décidé de réserver ses doses aux plus de 55 ans. Anne Le Gall.
Effectivement, cette limitation d'âge qui est la même que pour AstraZeneca ne changera pas le calendrier puisque seuls les plus de 55 ans sont concernés par la vaccination actuellement. Mais pour utiliser le vaccin Janssen à partir de jeudi prochain comme prévu, se pose effectivement la question de la livraison des doses. Nous en avons déjà reçu 200 000 qui sont prêtes à être livrées chez les médecins, les pharmaciens. Mais pour recevoir les 600 000 doses attendues sur tout le mois d'avril et les 2 millions attendus en mai, ce qui correspond à 15% du total des livraisons de vaccins, eh bien il faudra à la fois un feu vert du laboratoire qui bloque ces livraisons en Europe pour l'instant et un autre de l'Agence européenne du médicament qui est attendu la semaine prochaine.
Une campagne de vaccination freinée aussi, hein, Anne, par une forme de méfiance qui se généralise aux autres sérums comme le Moderna, constat fait dès le week-end dernier dans certains vaccinodromes. Du coup, le ministère de la Santé n'exclut pas de ne plus communiquer en amont le nom du vaccin qui sera administré. Anne, c'est ça par exemple sur Doctolib?
Alors oui, sur le papier, c'est tentant. Le problème, c'est que tous les vaccins ne sont pas interchangeables. Ils ont tous une très bonne efficacité, mais on l'a vu, il y a des restrictions d'âge pour certains, du stockage à basse température pour d'autres. La date du rappel n'est pas la même, voire il n'y a pas de rappel du tout. C'est le cas du vaccin Janssen. Donc, on est quand même obligé de faire une distinction entre eux. Ceci dit, il y a deux vaccins totalement jumeaux. Ce sont les vaccins à ARN messager Pfizer et Moderna. Ces deux-là agissent exactement de la même façon dans l'organisme. Et le ministère de la Santé rappelle que les patients n'ont aucune raison de faire la distinction entre les deux.
Les précisions d'Anne Le Gall pour Europe 1.
Il est 5h37 sur Europe 1, une technique policière en question à présent. Ces derniers mois, plusieurs messageries cryptées utilisées par des trafiquants ont été démantelées par la police. Mais l'utilisation des données de ces espaces de discussion est aujourd'hui contestée.
C'est ainsi que ce matin, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy va examiner une requête en nullité déposée par les avocats d'un homme suspecté de trafic de drogue et qui utilisait une de ces messageries décodées par les forces de l'ordre. Pour son représentant, maître Guillaume Martin, la captation intégrale des données n'est rien moins qu'une atteinte aux libertés.
Les enquêteurs ont présenté la messagerie en CrowdChat comme étant exclusivement utilisée pour du trafic de stupéfiants ou des activités illicites en tout genre. Sauf qu'en réalité, on se rend compte que toutes les conversations qui ont été captées à cette occasion ne sont pas en lien avec des activités illicites. Donc on a, si vous voulez, ramassé très largement. On a capté très très largement et de manière totalement indiscriminée des dizaines et des dizaines de milliers de conversations entre des individus partout dans le monde et on a fait le tri ensuite. Je ne doute pas que la mesure de piratage de la messagerie en CrowdChat a permis d'arrêter un certain nombre d'activités délictuelles, certes, mais on ne peut pas, au prétexte de vouloir lutter contre le crime et la délinquance, utiliser des méthodes qui en réalité ne sont pas prévues par la loi et donc de ce fait sont illégales.
Maître Guillaume Martin, micro Europe 1 de Guillaume Bier. Enfin, le double coup gagnant du PSG, la qualification du club de la capitale pour les demi-finales, n'est pas seulement un bon coup sportif, c'est aussi une belle affaire financière, hein, Julien Froment.
Oui, le service gestion comptabilité du Paris Saint-Germain a dû apprécier mardi soir car selon les estimations de l'Observatoire du sport business, le club de la capitale a amassé plus de 110 millions d'euros de primes. Avec cette qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions, Vincent Chaudel est économiste du sport.
C'est important parce que c'est une année Covid où les clubs sont privés de recettes billetterie. Il y a un impact aussi sur leur sponsoring, les loges et autres recettes. On peut estimer aujourd'hui, ou du moins il y avait des prévisions qui parlaient de 200 millions d'euros de déficit pour le PSG, une campagne à 110 millions d'euros en Champions League est évidemment très importante pour amortir et réduire ce déficit.
Une prime qui peut encore augmenter si le Paris Saint-Germain, comme l'an passé, se qualifie pour la finale de la Ligue des Champions. Le club toucherait alors au total 134 millions d'euros. Et pour le titre, eh bien, ce serait environ 6 millions d'euros supplémentaires dans les caisses du club de la capitale.
Le PSG qui affrontera fin avril Manchester City. Les joueurs de Pep Guardiola se sont qualifiés hier après une victoire de 1 contre Dortmund.
C'était le journal de Marion Calais. Il est 5h39. Et on retrouve Thierry Léger pour les pronostics du Quintet.
C'est sur l'hippodrome d'Auteuil que se disputera ce quintet, un handicap qui réunira 16 chevaux âgés de 5 à 11 ans. Et je n'ai pas hésité à placer en tête de mon pronostic Super Alex, le numéro 4, excellent second le 20 mars pour sa première dans un quintet à Auteuil qu'il découvrait ce jour-là. Et à la faveur de quelques progrès attendus par son entourage, il peut être considéré ici comme un vainqueur en puissance. Son principal rival sera le numéro 5, Gagneur, le bien nommé, lauréat à 3 reprises en 8 tentatives, dont un quintet, et qui, après avoir bénéficié d'un repos hivernal bien mérité, est d'ores et déjà fin prêt à effectuer une rentrée attendue avec optimisme par son entourage. Derrière ces deux priorités, je vous propose les numéros 14, Grandiose, en constant progrès, 8 Folly Foot, à nouveau muni d'une paire d'œillères australiennes, et 7 Celtior, entraîné par Laurent Vielle, dont tous les pensionnaires ne cessent de se distinguer. Enfin, les numéros 3, Clondon Sian, 12 Prince du Room et 16 Falstaff compléteront ma sélection. Mon pronostic, 4, 5, 14, 8, 7, 3, 12 et 16.
Merci à vous Thierry Léger, et tous vos pronostics sont sur europe1.fr.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
6h20 sur Europe 1. 100 000 morts du Covid en France. Ce cap va être officiellement franchi dans les toutes prochaines heures. Quelle blessure, quelle cicatrice faudra-t-il ensuite refermer? Nous en parlons ce matin avec ma première invitée. Bonjour de Marie de Henzel.
Bonjour.
Vous êtes psychologue, psychothérapeute, merci d'être avec nous. Vous publiez chez Plon l'adieu interdit à propos de la difficulté du deuil dans ce contexte. Alors, il y aura un hommage organisé par la France à toutes les victimes, c'est ce qu'a annoncé hier le porte-parole du gouvernement. Ça vous paraît important d'organiser ce moment collectif?
Oui, c'est très important. Ça fait longtemps que je le réclame. Vous le savez, il y a 100 000 personnes qui sont mortes du Covid, ça veut dire des centaines de milliers de pertes de proches dans des chagrins et des désespoirs sévères parce qu'ils n'ont pas pu accompagner, dire au revoir et n'ont pas pu constater la mort, ce qui est très important pour faire son deuil, parce que tant qu'on n'a pas constaté la mort, qu'on n'a pas vu la personne dans son cercueil, eh bien, même si on vous dit « oui, il est là dans ce cercueil », les gens n'y croient pas. Il y a un phénomène de déni et c'est très difficile de faire son deuil à cause de ça.
Vous racontez justement dans votre livre ce deuil impossible pour de nombreuses familles. Ça va être une cicatrice très difficile à refermer?
Oui, je pense qu'il ne faut pas du tout banaliser ça. C'est difficile. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des moyens d'aider, bien sûr, il y en a. D'ailleurs, dans mon livre, il y a une lettre aux endeuillés que j'ai écrite justement pour aussi les inciter à exprimer leurs émotions. C'est la première des choses. Son chagrin, sa colère aussi, ça fait partie des émotions dans le deuil. Et puis, il y a des rituels auxquels on peut inviter les personnes, par exemple autour d'une photo, d'une bougie, d'organiser un rituel dans lequel on s'adresse à la personne, on lui dit ce qu'on aurait aimé lui dire. S'excuser aussi, parce qu'il y a beaucoup de culpabilité, beaucoup. Et donc, j'incite vraiment
remplacer
en
quelque sorte les rituels qui n'ont pas pu avoir lieu, puisque certains n'ont pas pu assister à des funérailles parce que c'était en très petit comité ou presque pas. Pensez que tout cela, tout cet impact psychologique a été sous-estimé par ceux qui nous dirigent?
Oui, je pense complètement. D'ailleurs, je dirais même la mise en œuvre de ces consignes, parce que il y avait aucun fondement juridique, il faut le rappeler. C'était des consignes sanitaires qui, il y avait une peur aussi qui était très entretenue aussi par les médias. Et je veux dire, les gens n'ont pas osé aller dire au revoir parce qu'il y en a qui ont osé, qui ont pu, et puis d'autres pas. Et là aussi, ça introduit, vous voyez, une culpabilité parce qu'il y a ceux qui n'ont pas osé savent que d'autres ont osé et donc s'en veulent et ne se le pardonnent pas. Quand on ne se pardonne pas quelque chose comme ça, eh bien, on s'interdit de vivre, on s'interdit d'être heureux. Donc, ça va assez loin, les conséquences, de ces deuils impossibles.
Alors il y a tous ces traumatismes individuels dans les familles, dans 100 000 familles en l'occurrence, et au-delà une forme de traumatisme collectif aussi. Comment on peut soigner ça, et est-ce que cette cérémonie publique qui aura lieu, comme on a pu le connaître pour, après les attentats, est-ce que cette cérémonie peut aider ?
Bien sûr, sur le plan collectif, ça aidera. Je pense que ça fera du bien aussi à toutes ces familles, qu'il y ait une reconnaissance. Je ne comprends pas d'ailleurs qu'on n'en ait pas eu l'idée plus tôt. Il y a eu une forme de mépris, les familles le vivent comme ça. Aujourd'hui, toutes ces familles témoignent. Il y a ce collectif Tenir ta main qui recueille tous les témoignages qui ont été lus d'ailleurs par des acteurs qui sont poignants. Il y a le sentiment qu'on n'a pas pris au sérieux, qu'on n'a pas pris la mesure de ce qui s'était passé. Et là, il faut vraiment réparer cela.
Emmanuel Macron était hier justement dans un service de psychiatrie, de pédopsychiatrie plus précisément, et on entendait des soignants lui réclamer des moyens. C'est l'un des gros points noirs. Il y a un réel afflux, un besoin d'accompagnement, vous le dites, et on n'a pas les moyens en face pour accompagner toutes ces personnes.
Oui, on n'a pas les moyens. C'est vrai que ça fait longtemps d'ailleurs que le secteur de la psychiatrie se plaint de ce qu'il n'ait pas les moyens nécessaires. Là, vraiment, on se rend compte qu'il est temps, effectivement, que nos gouvernants décident, effectivement, de permettre à des personnes d'avoir un soutien psychologique qui soit remboursé, qui soit pris en charge par l'État.
Il a d'ailleurs annoncé un forfait psy pour les enfants, oui, et pour les ados de 3 à 17 ans. 10 séances, oui, gratuites remboursées chez le psychologue, c'est une bonne chose pour ces,
oui,
enfants,
sûr,
qui sont eux aussi,
oui,
très,
oui,
marqués. Hein.
C'est la moindre des choses. Ce sont tous les âges qui sont affectés. Et les enfants sont très affectés quand ils voient aussi leurs parents affectés. Enfin, il y a une sorte de contamination du chagrin, hein, dans une famille. Quand on se sent impuissant, quand les enfants se sentent souvent impuissants à consoler leurs parents aussi, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte.
Marie de Wenzel, est-ce que vous restez quand même optimiste sur notre capacité collective de ce qu'on appelle la résilience ? Est-ce qu'on va retrouver le moral et l'entrain lorsque notre vie va redevenir plus normale, on l'espère, dans les mois qui viennent ?
En tout cas, une des clés pour retrouver la résilience, c'est vraiment cette reconnaissance de la souffrance, des deuils impossibles. Il faut une reconnaissance. Je crois aussi qu'il faut s'engager pour que ça ne se reproduise pas. Vous savez qu'il y a, un projet de loi qui rend le droit de visite opposable. Moi, je soutiens ce projet. Et je crois qu'il faut se dire que ça ne se reproduira pas. C'est vraiment quelque chose qui permettra justement de rebondir et d'aller de l'avant. Ça, ce sont la reconnaissance l'hommage collectif, une loi qui rende impossible que l'on puisse interdire des visites et l'accompagnement, ce qui est une indignité, je dirais, majeure, finalement. Parce que quand on parle de dignité du mourir, la première des dignités, c'est de pouvoir avoir un proche qui vient vous dire au revoir. Est-ce qu'on peut mourir sereinement ?
L'adieu interdit, c'est votre ouvrage publié chez Plon. Marie de Wenzel, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1.
Merci.
Europe 1. Il est 5h47 sur Europe 1, c'est l'heure de mettre en lumière, comme chaque matin, ceux qui font bouger la France. Avec vous, Lénaïk Monnier, où est-ce qu'on va ce matin ?
À Rouen, car si tu ne vas pas à la culture ira à toi. Fini la pub et place à l'art grâce à la métropole qui se plie en 4 par 3.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Sébastien Krebs.
5h48, alors que la France s'apprête à franchir la barre symbolique des 100 000 morts du Covid, l'exécutif va plancher aujourd'hui sur la réouverture des lieux fermés au public. Réunion à l'Élysée à 18h en présence d'une dizaine de ministres. Notre bas de laine pourrait bien être décisif pour la reprise. Selon l'OFCE, si les Français dépensaient 20% de l'épargne accumulée pendant la crise, la croissance du PIB atteindrait 6% l'an prochain, soit 2 points de plus que la prévision actuelle. Et puis Notre-Dame de Paris, 2 ans après l'incendie, visite ce matin du chantier par Emmanuel Macron, qui assure dans Le Parisien aujourd'hui en France que l'engagement de la réouverture en 2024 sera tenu.
Écoutez Le Monde changer avec Sébastien Krebs sur Europe.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
5h54, notre planète, des solutions positives chaque matin pour changer les choses, pour changer la donne sur l'environnement. Avec Virginie Salmen ce matin. Virginie, cette question, comment rendre son smartphone un peu plus vert ? Vous avez des réponses, vous avez trouvé des moyens assez simples finalement pour réduire l'impact de son portable sur la nature et sur le climat.
Oui, d'abord le forfait, c'est une nouveauté depuis quelques mois. On peut souscrire à un éco-forfait. Alors l'intérêt, c'est de ne pas exploser, entre guillemets, sa consommation de données, de vidéos, etc. pour ne pas faire surchauffer les serveurs. Donc le principe, c'est de payer un forfait de 10 euros par mois pour passer tous les coups de fil et envoyer tous les SMS que vous voulez. Et ensuite, vous allez payer 2 euros supplémentaires par gigaoctet consommé. Et oui, ça marche bien puisque c'est le réseau d'Orange qui est utilisé par une petite coopérative qui s'appelle Télécom et qui en est à un peu plus d'un millier d'abonnés.
Mais en fait, ce qui pollue le plus, c'est la fabrication des smartphones eux-mêmes.
Oui, 80% de l'impact environnemental d'un téléphone, c'est sa production. Il faut brûler beaucoup d'énergie pour extraire tous les composants, minerais et métaux plus ou moins rares. Donc la deuxième chose qu'on peut faire, c'est faire durer un peu son téléphone. Vu le prix d'un smartphone, ça permet aussi de faire quelques économies. En moyenne, en France, on change de portable tous les 2 ans. On pourrait facilement étirer jusqu'à 5 ans. Ou alors, au lieu d'acheter au départ un téléphone neuf, choisir un téléphone reconditionné, c'est très intéressant, jusqu'à moitié prix, voire plus. Ce sont des professionnels qui vérifient et qui réparent les téléphones. Ça se trouve sur des sites comme Recommerce, Backmarket ou Label Emmaüs, la boutique en ligne d'Emmaüs.
Et pour faire durer justement son téléphone, on peut aussi le faire réparer.
Oui, si vous vous dites « il faut que je change de téléphone parce qu'il rame, il est lent », vous pouvez commencer vous-même par vérifier quelques réglages, ceux des photos et des vidéos. Souvent, les téléphones sont réglés sur la qualité maximale, la plus lourde, si on veut imprimer la photo en version poster, ce que vous faites, j'imagine, assez rarement. Et puis, si la batterie ne tient plus, vous pouvez la réparer vous-même. Même si vous n'êtes pas un bricoleur diplômé, certains sites comme Bricophone vous expliquent comment faire de A à Z. Il y a la fierté de l'avoir fait soi-même, le prix réduit et puis on évite d'extraire de nouvelles ressources dont certaines comme par exemple le platine ou l'indium ne sont disponibles que 10 à 20 ans encore si on continue à ce rythme, donc il faut les économiser.
Effectivement, la batterie, c'est souvent le premier problème qui se pose, hein, la batterie qui ne tient plus la charge, ça vient souvent assez vite. Merci à vous Virginie Salmen et à demain.
Europe Matin, le 5-7.
Sébastien Krebs.
Écoutez le monde changer.
Bienvenue à vous tous si vous nous rejoignez sur Europe 1 au réveil. Il est presque 6h. Le 5-7 continue. Nous sommes le jeudi 15 avril. Cette date du 15 avril qui marque à jamais le cœur de Paris. 15 avril 2019. Nous avons encore tous ces images en tête. Notre-Dame qui brûle sous les yeux du monde entier. Et le lendemain, Emmanuel Macron fait cette promesse.
Nous sommes ce peuple de bâtisseurs. Nous avons tant à reconstruire. Alors oui, nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore. Et je veux que cela soit achevé d'ici 5 années. Nous le pouvons.
Tout rebâtir en 5 ans, eh bien il en reste 3. Emmanuel Macron sera sur le chantier tout à l'heure. Sa première visite sur les lieux depuis l'incendie. Alors où en sont les travaux aujourd'hui? À quoi ressemble l'intérieur de Notre-Dame? Je reçois ce matin le recteur de la cathédrale, Monseigneur Patrick Chauvet, sera avec nous à 6h40. D'ici 7h, tous vos rendez-vous bien sûr. Votre revue de presse internationale, on ira notamment aux États-Unis où le décès de l'escroc Bernard Madoff est très commenté aujourd'hui. Et puis dans la partition du jour...
Quartier latin, quartier latin, quartier latin.
Nous serons en 1967 avec toujours autant d'appétit. Le public attend de voir Léo Ferré sur scène en 1967. Pour la 4e fois, il se produit à Bobino et ce concert qui est entré dans l'histoire va paraître demain pour la première fois en vinyle. Le récit d'Omblin Roche en musique, c'est à 6h20. Laurent Cabrol, l'hiver continue.
Eh oui, malheureusement, et les températures, on espère toujours chaque matin qu'elles seront un petit peu moins basses. Oh, elles le sont, mais un tout petit peu. Hein. Nous avons toujours une poche d'air froid, Saint-Étienne, Épinal, Luxeuil, Vichy, Charleville-Mézières, entre moins 3 et moins 4 degrés dans toutes ces villes. Moins 2 à Auxerre et 3, moins 1 à Langres, à Nancy, Orléans, 0 à Besançon, 1 degré à Alençon, 2 degrés à Bourges, Lille et Strasbourg, 3 à Marseille et Lyon, 4 à Paris, Toulouse et Brest, 6 à Bordeaux et 8 à Toulon. Alors, je regardais les cartes pour tous ceux d'entre vous qui craignent pour le gel, hein, notamment les arboriculteurs et les viticulteurs, elle est sur une bonne moitié nord de la France, il y a quand même beaucoup, beaucoup de 0 degré, donc des températures fatales bien souvent. Alors la couleur du ciel maintenant, ce sera 50-50. Éclaircies nuages en alternance. Basse-Normandie, Val-de-Loire, région parisienne, Bourgogne, Franche-Comté, Auvergne et région Rhône-Alpes. Et puis des régions où ce ne sera pas sympa du tout. Le nord, la Picardie, les Ardennes, la Lorraine, l'Alsace et les Côtes-Normandes. Ça veut dire que nous aurons des giboulées et des giboulées dans un temps très instable. instable. Sur la Provence et la Côte d'Azur, également des averses. Et puis de la neige sur les Vosges et du Jura à partir de 600 mètres. Enfin, le beau temps, le grand beau, Bretagne, Loire-Atlantique, Poitou-Charentes-Limousin, tout le sud-ouest, le Languedoc et le Roussillon, du soleil, mais partout du vent de nord et sous abri, fera entre 10 et 16 degrés.
Et vous voyez venir le changement, le redout ou pas?
Pas avant la fin de la semaine.
Pas avant la fin de la semaine. Bon,
côté température, en tout cas.
À tout à l'heure, merci Laurent.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.